franceinter.com.
Quelle est ma langue maternelle? Je ne sais pas répondre. Est-ce la langue de la maison? La langue de mes premiers mots? Ou l'autre langue? Celle de la rue, de l'école? La langue que j'ai appris à lire et à écrire. Je suis née à la fin de la Seconde Guerre mondiale à Tel Aviv, la première ville hébraïque. De ses sables, espérait-on, surgirait un homme nouveau, parlant, pensant et rêvant seulement en hébreu. Chez moi, on parlait allemand. En allemand, mon père me lisait des contes effrayants. En allemand, ma mère me disait qu'on avait assassiné sa mère. Avec le médecin, les amis, les marchands de la rue Ben Yehuda, ma mère parlait aussi allemand. Rue Ben Yehuda était mon jardin d'enfants. Mais ma mère ne savait pas qui était Eliezer Ben Yehuda, considéré comme le rénovateur de l'hébreu.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Il y a dans la vie des rencontres de hasard qui sont des moments de grâce. Certains livres, certaines conversations, un lieu qui élargit soudain notre horizon. Et parfois, cela se passe aussi dans une salle de cinéma où les visages et les voix de ceux qui nous parlent nous bouleversent tant que l'on sait en une fraction de seconde qu'ils vont nous accompagner pour le reste de notre vie et nous aider à penser mieux. Cela s'est passé ainsi en 2004 pour ceux qui sont allés au cinéma Les Trois Luxembourg, où était projeté un film de Nourrit Aviv intitulé « D'une langue à l'autre ». 9 écrivains et artistes israéliens, juifs et arabes y parlaient de leur rapport à l'hébreu. Et ce faisant, ils nous parlaient du plus secret de nous-mêmes. 4 années plus tard, nous avons repris ce voyage intérieur avec le deuxième volet, langue sacrée, langue parlée. Même dispositif, même quête, même miracle d'une pensée filmée au moment où elle s'exprime. Demain, toujours au 3 Luxembourg, commencera la projection du dernier volet de cette trilogie avec « Traduire ». Cette fois-ci, ce sont 10 traducteurs s'exprimant dans leur langue de travail qui nous parlent de leur lutte avec l'hébreu, de leur victoire, de leurs doutes et donc de l'histoire intime que révèle la cohabitation avec cette langue à la fois sacrée et profane. Nourrit Aviv a respecté le même cadre, la même lumière, le même rythme, celui du souffle et de la parole. Ne ratez pas ce rare moment de grâce et guettez la parution en avril prochain du coffret de ces films qu'éditeront les éditions Montparnasse, accompagné d'un livre de la réalisatrice. Et Nourrit Aviv est ce soir l'invité de l'Humeur Vagabonde.
A Feigenbaum, Mandelbäum in Eugetrer halt ein sich kommt.
Bonsoir Nourrit Aviv.
Bonsoir.
Traduire, troisième d'une trilogie, donc le mot fin doit apparaître. Vous en avez vraiment fini avec la langue, j'ai du mal à le croire.
Moi aussi, j'espère que non.
On espère tous que non, parce que comment finir avec les mots? Nous sommes tous constitués de mots. Comment finir avec la perte? Nous avons tous perdu quelque chose. La transmission, nous avons tous quelque chose à transmettre, quelque chose qui nous a été transmis. Vous n'en aurez jamais fini.
J'ai quand même, comme c'est une trilogie, il fallait dire que c'est une trilogie et que c'est la fin. Mais vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai plein d'idées, mais bon, on verra.
Mais oui, c'est un sujet évidemment qui est le sujet qui est au cœur même d'Israël, du peuple juif et de ceux qui s'intéressent aux langues, aux livres. Donc, il y a encore beaucoup de territoires à couvrir et de gens. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens passionnants à faire parler?
Certainement. Je me suis retenue, par exemple, de faire le film dans le sens traducteur à l'hébreu de la littérature mondiale. Mais ils sont, c'est des gens extraordinaires. Je les connais, mais je ne peux pas. Je pensais que là... Le troisième, il est un tout petit peu l'envers du premier. Dans le premier, d'une langue à l'autre, et les gens parlent en hébreu des langues refoulées, repoussées, oubliées, et ils parlent en hébreu dans une. Et dans celui-là, c'est le contraire. Ils parlent dans toutes les langues de une langue, l'hébreu. Donc c'est comme si c'était les négatives. Et entre les deux, il y a langue sacrée, langue parlée, ce qui est dans celui-là, on parle de l'hébreu avant Israël. J'ai tenu beaucoup de faire comprendre qu'il y a l'hébreu d'avant, on commence avec les midrashs, et en même temps, j'ai vraiment décidé de ne pas faire des traducteurs de la Bible, parce que, voilà, ça serait un sujet à part, c'est trop grand aussi.
Mais justement, au départ, il y a ça, il y a les textes sacrés, Nourrit Aviv, il y a la Bible qui est commune à tous les peuples du livre. Et c'est un territoire inépuisable, mais c'est fascinant parce que la langue originelle n'était pas la langue hébraïque, c'était l'araméen aussi. Il y avait pour les évangiles, c'est l'araméen. Pour la Bible, c'est l'hébreu. Il y a des approches différentes selon les religions.
Araméen, une partie de la Bible hébraïque, et à la fin, un araméen, mais on n'en sait rien. Les évangiles sont en grec. Hein, donc, Et on ne sait pas s'il y avait des textes avant ces textes en grec. Donc, normalement, je crois que la différence, peut-être, et je crois que, en effet, la Bible hébraïque appartient au moins à deux religions, la juive et la chrétienne, sauf que je crois que la différence est que les juifs ont toujours gardé l'original et ont permis la traduction à côté, qui accompagne, mais qui ne remplace pas. Et les chrétiens ont, depuis le début, lu les textes en traduction, en grec, mais cette traduction, c'est la Septante, qui est une traduction, a priori, faite par les juifs.
Et justement, est-ce que, là, parce que ces films, est-ce que vous avez été surprise de voir que ça dépassait largement le public israélien, le public juif, et que ça parlait à tant de monde? Est-ce que vous pensez que c'est justement, au départ, le rapport à cette langue sacrée?
Pour moi, c'était l'histoire de la traduction. J'aurais pu prendre une autre langue. C'était pas au départ, vraiment au départ, pour d'une langue à l'autre, par exemple. J'ai pensé au départ de faire un film. Je pensais à Arte, je pensais le faire en français et en
allemand.
Et en allemand, avec des gens qui écrivent. Le premier que j'ai vu, c'était un ami, Saïd, poète en allemand, qui est d'origine iranienne. Et il a dit des choses formidables que personne m'a dit après. Mais après, bon, je me suis dit quand même, tu exagères, tu peux, bon, c'est un sujet, tu vas pas contourner comme ça l'hébreu. Mais je crois que vraiment à cette phrase d'Edouard Glissant, que j'ai pas ici, mais qui dit que toute traduction de toute langue renvoie à toute autre traduction de toute autre langue à toute autre langue. Donc l'hébreu, c'est l'hébreu, mais à partir de là, ça, tout s'ouvre, c'est vraiment polyphonique.
Il y a quand même dans l'hébreu une sorte de mystère originel, pratiquement, qui fascine beaucoup de monde. Je vais vous faire entendre quelqu'un qui n'est pas dans vos films, Nourrit Aviv, qui s'appelle Eri de Luca, qui a un passé politique important, qu'on connaît bien, et qui s'est mis sur la fin de sa vie, puisqu'il commence à être un homme un peu âgé, qui s'est mis à lire, lui, l'athée, à lire la Bible. Et comme il voulait la lire mieux, il a appris l'hébreu pour la lire.
J'ai appris très lentement l'ancien hébreu. Ça me plaisait le fait de le faire. Ça me plaisait de connaître la langue qui avait abrité pour la première fois ces mots géants, les mots qui font avenir le monde. Dans cette langue, il y a pour la première fois la révélation que Dieu a besoin des paroles, des mots, de sa voix pour faire avenir le monde. Ça, c'est la plus grande surprise pour quelqu'un qui aime les mots, les emplois pour ces histoires. Et la puissance qui fait avenir directement les choses, la puissance des mots qui font avenir les choses, est une immensité dans laquelle on se sent infiniment une partie. Vous savez qu'en hébreu, il y a aussi un mot qui décide, qui tient ensemble le mot et chose accomplie. Davar s'appelle ce mot. Et est possible exclusivement dans une langue qui a eu cette force de créer le monde avec les mots.
Nourrit Aviv, c'est étonnant d'entendre quelqu'un dire « J'ai voulu apprendre la langue dont les mots font advenir les choses ».
Parce qu'il dit que c'est les mêmes mots pour les mots et les choses. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, sous le mot « traduire » qui est dans l'affiche, il y a une petite, il y a le titre en hébreu qui ne dit pas la même chose. Et il dit, ça dit « Safa achat vedvarim achadim ». Donc, ça vient de la chapitre 11 de la Genèse, là, qui veut dire « une langue et des paroles ». La Bible, dans l'hébreu ancien, ça veut dire une langue et des paroles une ou unique. Hein. Mais en hébreu d'aujourd'hui, ça dit le contraire, ça veut dire une langue et des choses sur elle ou des choses multiples. Hein. Donc en fait, ce jeu-là qu'il vient de dire, est-ce que ça veut dire devarim, est-ce que ça veut dire le mot ou le chose, ça reste ouvert, et ça reste ouvert. C'est-à-dire que c'est ça qui est formidable avec l'hébreu, que ça permet de jeux de mots extraordinaires, parce que les choses et les mots disent la même chose, et ça vient, bon, tout, on connaît peut-être, de mots « ledaber » parler, « midbar » les déserts, où étaient donnés les 10 commandements, 10 brotes, tout ça joue comme ça autour, et que ça a permis toujours, et les juifs l'ont toujours fait, de jouer beaucoup avec ça, avec les mots, et essayer d'interpréter à l'infini. Et c'est ce qu'il dit le premier intervenant, Sandrick Lemeger, et qui raconte ce jeu de mots qui est possible d'interpréter. Mais il dit aussi que, pour moi, il dit en fait, il ne les dit pas comme ça, mais moi je dis que les midrash fonctionnent un peu comme fonctionnent les rêves. Je dis bien pas l'interprétation, mais les midrash eux-mêmes. Pas d'historicité. C'est-à-dire que Moïse peut rencontrer un rabbin de premier siècle, pas de conclusion, c'est-à-dire il y a des contradictions qui restent ouvertes. Et Sandrick dit, on est au bord du gouffre, carrément. C'est-à-dire que au début, il savait pas quoi faire avec, tellement c'était angoissant. Et aussi tous ces jeux de mots possibles, hein, en hébreu.
Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de traducteurs dans votre film Nourrit Aviv qui parlent justement, certains avec encore beaucoup d'effroi, d'autres qui ont manifestement surmonté la difficulté avec plus de plaisir, de ces mots de l'hébreu ancien qui n'ont plus tellement d'équivalent dans la langue moderne, et au contraire, de cet hébreu profane, cet hébreu qui s'est formé en parlant dans la rue au fil des dernières années, et qu'ils ont du mal à relier à l'hébreu ancien. Il y a encore ce poids de la langue sacrée qui pèse incroyablement sur les mots d'aujourd'hui.
Mais c'est les mêmes mots. C'est pas du tout, c'est-à-dire qu'on croit un peu que c'est comme les Grecs anciens, les Grecs modernes. Non, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes mots. Vous trouvez les mêmes mots, sauf qu'ils ont des couches et des couches d'interprétation, c'est-à-dire possible. Mais toutes ces couches, tout au long de l'histoire, parce que moi je crois, contrairement à ce qu'on dit, que l'hébreu n'était pas mort, parce qu'on a continué à inventer tout au long de l'histoire de nouveaux mots. Et tant qu'on invente de nouveaux mots, et une langue n'est pas morte, c'est
pourtant
vrai.
Pourtant, Edgar Keret, que vous aviez interrogé dans un précédent film, avait cette expression très, très drôle. Il dit, en fait, c'est une langue qui a été congelée pendant 2000 ans et décongelée. Alors évidemment, ça a changé.
Oui, d'abord, je ne suis pas d'accord avec lui. Et en plus, je lui demandais, tu peux les dire, mais si tu dis, par rapport à la langue parlée. C'est-à-dire que c'est vrai que la langue n'était pas parlée, mais elle n'était pas morte parce que les rabbins, parce que ce sont écrits des lettres tout au long de l'histoire, inventant des mots de l'époque, parce que sinon, ils devaient parler du quotidien. Donc ils ont tout le temps inventé des mots. Je ne sais pas si quelqu'un m'a dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais que j'ai lu que le nombre, pour traduire Maïmonide a écrit en judéo-arabe, ce qui veut dire en arabe, en lettres hébraïques. Ça a été traduit tout de suite par le Thibonide. Et ils ont inventé, parce que comme c'était philosophique, ils ont inventé une quantité incroyable de mots, peut-être plus grande, une quantité plus grande que dans la Bible elle-même. Et si pas plus grande, mais énorme. Hein. Donc ça a été tout le temps, ça continuait à vivre dans l'écriture. Et puis il y avait comme ça, c'est descendu, et puis hop, remonté, par exemple, comme la poésie du Moyen-Âge, dont parle... la poésie hébraïque de Moyen-Âge, dont parle Angel, et qui dit même qu'il explique que les mêmes mots, Zman, il explique, qui veut dire dans la Bible et dans l'hébreu d'aujourd'hui, ça veut dire le temps, dans l'hébreu de Moyen-Âge, ça voulait dire le destin, comme dans la poésie arabe. Hein, oui, venant mais... via le grec, via l'arabe, arrive à la poésie hébraïque.
Il y a d'autres exemples, par exemple le mot sécurité. Il y a quelqu'un, un intervenant qui dit, en fait, autrefois c'était juste la confiance en Dieu, oui. Alors qu'aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, ça touche à tout ce qui est la police, l'armée, la
défense,
sécurité.
La défense, oui. De l'État.
Oui.
Peut-être, oui. Est-ce qu'on peut faire plus confiance à... à cette défense-là qu'à Dieu, j'en sais rien.
Et puis, il y a un de vos intervenants qui s'appelle Istok Niborski, qui est très intéressant, qui vit à Malakoff, qui est traducteur donc, en yiddish, et qui, lui, fait une comparaison très intéressante entre ceux qui parlaient le yiddish et ceux qui parlaient l'hébreu. Et il dit, au fond, l'hébreu, c'était la langue...
Écrivez.
Voilà, la langue du sacré, et ceux qui étaient dans le yiddish, au fond, étaient peut-être plus proches, sont restés à travers les âges plus proches de la langue de départ. Les mots en yiddish sont plus proches, dit-il, du vrai sens de l'hébreu ancien.
Ce qui gardait, parce que lui, ce qui est étonnant, il a fait un dictionnaire des mots hébraïques qui sont yiddish. Hein. Il faut se rappeler que yiddish, c'est une langue à 85% alémanique, hein, germanique, écrite en lettres hébraïques, comme Maïmonide avec les Judes arabes. Mais il a fait donc un dictionnaire des 6000 mots. Mais il a fait un dictionnaire yiddish-yiddish, hein, parce que c'est les mots en yiddish qui viennent de l'hébreu. Et en effet, parfois, à l'intérieur de yiddish, ils ont gardé les sens anciens qu'ils n'ont plus dans l'hébreu moderne. Et c'est très étrange. Mais ce qu'il dit aussi, ce qui est extraordinaire, qu'au départ, la langue de la culture était l'hébreu. Et avec la modernité, on a les mêmes personnes, les mêmes auteurs pouvaient écrire, s'élever un jour, écrire en hébreu ou écrire en yiddish. Donc, ils se sont mis plus en yiddish pour que ça soit lisible par les peuples. Mais par exemple, il donne l'exemple de Mendeley, qu'il s'est rétraduit lui-même. Il a commencé par écrire en hébreu. Après, à yiddish, il s'est rétraduit en hébreu et il change complètement l'hébreu parce que les dialogues... En langue biblique, c'est pas possible. Donc, il amène la langue midrashique, mishnaïque d'une autre époque. Il met beaucoup de yiddishisme dans l'hébreu. Et ce qui fait que l'hébreu s'est modernisé avec la traduction de yiddish en hébreu.
On se souvient bien sûr que Isaac Bashevis-Singer, lui, n'écrivait qu'en yiddish et il y tenait beaucoup. Et pour le plaisir, on va quand même écouter sa voix. C'était en 1978.
On dit généralement que le yiddish est une langue trop rudimentaire, que ce n'est pas une langue de culture. Qu'en pensez-vous? Ceux qu'ils disent n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. C'est une bonne langue pour la littérature et la bonne littérature devient tôt ou tard mondialement connue. Pour quel public écrivez-vous? Pour tous les publics du monde entier. Et pas seulement pour les juifs. J'écris d'abord pour moi seul et ensuite celui qui veut lire, lira. Vous n'avez jamais songé à écrire en hébreu? J'ai commencé à écrire en hébreu, mais de mon temps, l'hébreu n'était pas une langue vivante, alors que le yiddish l'était. Aujourd'hui, c'est peut-être le contraire, mais j'ai décidé d'écrire en yiddish, car c'est ma langue et celle de mes proches.
Nourrit Aviv, dans un de vos films, il y a un écrivain contemporain qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Edgar Keret, et qui, lui, expliquait qu'au fond, il avait trouvé dans la littérature, dans l'hébreu de la littérature, plus de langues figées dans les écrivains israéliens et plus de langues avec de l'humour, de la vie, bougeant plus... Dans les écrivains de la diaspora. Et qu'au fond, il expliquait que lui, dans son hébreu, il essayait d'incorporer la langue de la diaspora dans son hébreu moderne. Il fallait un peu la salir, quoi, en quelque sorte.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'il parle de l'humour juif qu'il ne retrouve pas et de pathos.
Et du pathos des écrivains israéliens.
Pathos des écrivains israéliens qui s'y prend très très au sérieux. Et c'est très bien, je veux dire, c'est pour ça qu'il essaye de faire le yiddish en hébreu. Vous voyez, le yiddish sous les ailes de l'hébreu, l'hébreu sous les ailes. Et c'est va-et-vient entre les langues qui existaient toujours avant et qu'avec le sionisme a été perdu. Il essaye, lui, le jeune, de retrouver ça.
Alors,
je trouve ça formidable.
Il y a aussi quelque chose de très intéressant, et ça, il n'y a que des traducteurs qui peuvent le saisir, c'est quand ils disent qu'au fond, quand ils lisent des écrivains en hébreu pour les traduire dans d'autres langues, en allemand, en espagnol, en français, ils sentent, comme dans des strates géologiques, ils sentent d'où vient l'écrivain israélien. C'est-à-dire qu'il y a, dans cet hébreu contemporain, la trace comme un esprit de la langue d'origine, de la langue maternelle. Est-ce que c'est parfois le russe, parfois c'est l'allemand, parfois c'est un mélange de plein de langues européennes. On va écouter, bien sûr, puisqu'on parle de cet héritage et de l'acquisition de l'hébreu, Aaron Appelfeld, que vous avez vous-même interrogé.
L'hébreu n'est pas ma langue maternelle. Bien que je n'ai pas d'autre langue, j'ai toujours une crainte que je perde cette langue. Elle est entrée en moi à un âge avancé. Et quel que soit l'effort que l'on fasse, elle ne peut pas être à 100% une langue maternelle. Mais il y a un avantage. À force de craindre, je vérifie chaque mot, mot après mot. Et j'écris avec 7 ou 8 versions différentes. Parce que ce n'est pas à moi à 100%. J'aime la langue. Elle a des senteurs anciennes. Elle a quelque chose de mythique. Et un écrivain qui cherche vraiment les débuts aime cette langue, aime l'hébreu.
Au fond, Nourit Aviv, ce que nous dit Aaron Appelfeld, c'est que lui était dans ce temps où l'hébreu n'était pas encore acquis, comme Israël n'était pas acquis, comme sa survie n'était pas acquise. Au fond, on se rend compte, en l'écoutant lui comme d'autres, à quel point l'acquisition de l'hébreu était comme une sorte de renaissance, de parcours vers la terre promise. Il fallait cette langue pour recommencer à vivre.
Ce que je trouve bien chez Appelfeld, qu'il dit la chose de son contraire. Il dit c'est ma langue maternelle, c'est pas ma langue maternelle, mais j'ai pas une autre. C'est-à-dire, ce que j'aime bien, qu'il a peur que Dieu le garde si un jour il a Alzheimer, il sait pas dans quelle langue il va parler, parce que c'est ça un peu sa trouille, qu'elle va peut-être disparaître. Et parce qu'il a pas, il a oublié sa langue maternelle qui est l'allemande pour cause. Après, il était en ukrainien. Et après, il arrive là. Mais il faut dire que quand lui, il arrive pour d'autres, c'est déjà la langue maternelle. Parce que dans mon film, Langue sacrée, langue parlée, on commence avec Chaim Guri, qui est un poète très important. Il est né en 23. Il n'a pas une autre langue en 23. Et Appelfeld, il arrive après la guerre. Donc, vous voyez, il y a déjà des générations. Et déjà, pour Gour, il n'y a pas une autre langue que l'hébreu. Ce qui est malheureux, mais il n'y a pas une autre. Après, il a appris le français et tout ça. C'est ce que je trouve. On parle toujours de Ben Yehuda comme si lui, il a fait renaître la langue. Je crois que c'est un mythe aussi. On peut pas. On n'invente pas une langue, il y avait quand même une base. Mais ce qui était marrant avec Ben Yehuda, c'est que lui, il a cherché une terre pour la langue. Pas une langue pour une terre, mais il a dit qu'il cherchait une terre pour la langue parce qu'il était conscient que si on veut la reparler, il faut une terre. Et lui, il acceptait une solution qui a été proposée à un moment donné, et de faire ces pays en Ouganda. Imaginez-vous.
Mais Nourit Aviv, en vous écoutant, il y a une question qui arrive. C'est que vous dites justement que maintenant l'hébreu devient de plus en plus la langue maternelle. Donc est-ce que ça veut dire qu'au fond, vos films, dans 20 ans, 10 ans, ils n'auront plus de sens pour ceux que vous interrogerez, parce que la transmission, elle se fera dans l'hébreu, et la langue parlée et la langue écrite se rapprocheront, deviendront une seule langue avec la langue sacrée. Il n'y aura plus toutes ces questions, toutes ces langues à désapprendre. Ça sera une nouvelle génération.
Ça va être l'horreur si c'est comme ça. Moi, j'espère que... Moi, je suis pour le multilangue dans tous les sens, et que j'espère que... Et même l'hébreu dans l'hébreu, parce qu'en fait, cet autre hébreu, il est à l'intérieur de l'hébreu, et les gens ne sont même pas conscient parfois qu'il utilise des mots de la langue ancienne, et puis il rentre plein, évidemment, l'anglais, parlons pas, mais j'espère que quelque chose de cette des autres langues va rester. Vous savez, celui d'une langue à l'autre, Meyer Wieseltier, le premier, il a oublié
le russe.
Mm-hmm. Mais il se rend compte que Pushkin et Lermontov, qu'il savait par cœur comme enfant à 4 ans et qu'il a oublié la langue, la musique reste dans sa poésie. Donc même que s'il, par exemple, l'yiddish était complètement refoulé, on n'en voulait pas, c'était la langue des juifs, et les sionistes, ils voulaient être l'homme nouveau et tout ça en effaçant tout. Malgré tout, dans la grammaire, dans la syntaxe,
dans la musique, dans la musique aussi.
Dans la syntaxe, ouais. Malgré eux, dans la syntaxe, il y a même des gens qui disent que ce n'est pas une langue sémite. C'est-à-dire elle est sémite au niveau des mots, mais au niveau des syntaxes, elle ressemble beaucoup à des langues européennes via yiddish. Vous avez entendu le yiddish de Singer, ça faisait presque l'allemand.
Et puis, il y a dans tous vos films, Nourrit à vivre, les interrogations très particulières des écrivains et des traducteurs arabes-israéliens. Donc, il y a Alaa Lehel dans celui-là, comme il y avait Salman Masala dans les précédents. Et ils disent tous quelque chose de très intéressant. Ça c'est l'hébreu politique. Ils disent, au fond, pour nous, ça a été très difficile d'apprendre l'hébreu, enfin de s'exprimer dans l'hébreu, parce que c'était la langue de l'occupation, la langue du soldat, donc la langue de l'ennemi. Et en même temps, disent-ils, maintenant que nous nous exprimons en hébreu, que nous traduisons l'hébreu en arabe, l'hébreu n'appartient plus aux seuls juifs. L'hébreu appartient à ceux qui vivent sur cette terre, donc à nous aussi.
C'est sûr qu'il n'appartient pas qu'aux juifs. Dans le film, je passe juste dans le film traduire, plus que la moitié des traducteurs ne sont pas juifs. Donc ça, c'est la preuve que... Et concernant les Palestiniens d'Israël, et Alaa Lehel dit que voilà, il y a que c'est la langue de l'occupant, mais en même temps, c'est la langue de Hanoch Levin, avec qui il peut s'identifier parce qu'il parle justement
d'exil.
De l'exil. Donc, et de valises. Hein. Donc, il cite Mahmoud Darwish, les valises. Donc, il arrive à retrouver à travers la traduction de Hanoch Levin les valises de. Bon, voilà, et que dans la poésie, dans la langue. Quelque chose, ces rencontres, malgré tout.
Il dit même quelque chose de très intéressant. Il dit que le fait de traduire de l'hébreu en arabe a fait évoluer sa manière de parler l'arabe et donc cette manière d'être de l'arabe aussi classique. Et donc, il dit qu'il y a eu une évolution obligée.
Pas par l'écrire, parce qu'en arabe... Et Salman Masalha et lui, ils disent la même chose qu'en arabe. Il y a deux langues différentes, la langue parlée et la langue écrite classique. C'est vraiment deux langues. Et on apprend en fait la langue écrite qu'à l'école. Donc c'est une langue étrangère. Et comme si l'hébreu était la troisième langue étrangère, pas la deuxième, la troisième. Et ils les disent tous les deux. Et Masalha dit que peut-être il va arriver... Un jour, et c'est ça qu'il veut faire, d'écrire en langue parlée. Il dit, puisqu'aujourd'hui, les blogs, les SMS le font, et moi, je vais arriver un jour d'écrire un roman qui est tout en langue parlée, dialectale, tandis que maintenant, et chez Hanoch Levin, et dans ses propres livres, parce qu'il est écrivain, il écrit les dialogues en langue parlée, mais ce qu'il y a entre les dialogues en langue classique. Et il voudrait arriver, un jour, à écrire le tout en langue parlée, dialectale.
Nourrit à vivre, on le disait, chacun des intervenants de ce dernier film de la trilogie, Traduire, s'exprime dans sa langue de pays. Et il y a, à la fin de ce film, le moment où toutes ces langues se mélangent pour parler la même langue.
ماذا يرى الله خلف النافذة؟
ما هو إلهيم إذ يداه
متسوستان في العالم؟ ماذا ترى أمي؟
شتو فيتت ما يمات؟
فاسيت ما نموت؟
ما رأى إمي؟
Su corazón de su corazón se angustia.
But the dress, she said, the dress is
لكن
on fire.
قالت الثوب تدهمه النار.
Das Kleid, hat sie gesagt. Das Kleid brennt in fire.
Mat Omeret, sagte sie.
Was redst du? Was redst du?
Что видит Бог в окне?
Que voit Dieu par
la fenêtre? Que voit
Dieu par la ventana?
Que voit Dieu par la fenêtre?
ماذا يرى الله خلف النافذة?
Ma roe Elohim over la chalon.
Was sieht Gott durch den Fenster?
Ma roe Elohim over la chalon.
פעם אחת חלמתי חלום. Une fois, j'ai fait un rêve.
Vagabonde sur France Inter.
Je suis née à Istanbul, dans une ville entre deux mondes, entre deux continents, une ville où il y avait des émigrés des deux guerres, des Russes qui avaient fui la révolution d'octobre, des Allemands qui avaient fui le nazisme. C'était une ville où on parlait des langues, dans ma famille aussi. On parlait des langues, le français, l'allemand, le bulgare, le judéo-espagnol et le turc, que j'ai appris à l'extérieur, dans la rue, mais que mes parents ne parlaient pas. Mais ce n'est pas du tout la raison pour laquelle je crois que je suis devenue traductrice un jour, plutôt tardivement dans ma vie. Vers l'âge de 18 ans, je suis partie en France pour étudier, et à peu près à la même époque, j'ai fait un détour par Israël. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois l'hébreu, que je n'arrivais à associer à aucune des langues que je connaissais, que je ne parvenais pas à lire, mais dont la sonorité m'a d'emblée frappée par son étrangeté, comme quelque chose de totalement inconnu et en même temps de familier, comme dans un rêve un peu. J'ai fait plusieurs allers-retours entre la France et Israël. Je suis revenue avec peu d'espoir d'y retourner y vivre, et j'ai eu brusquement peur d'oublier l'hébreu. Et c'est là que j'ai commencé à traduire de la littérature israélienne de l'hébreu, pour ne pas oublier.
אני לא מובן את המילים באיזשהו גיל שעדיין מרטיבים וקיים אבא מתפלל בסמוך מעבר קיר קיים קיים, אני אומר סתם קיים כמו מכת גרזן המשיג את העורף סדקים ניבים באורך האוויר ובאדם ליל שבת השיר שירים נופל בשאגה לא מולפת של חשק הנה זה בג, אוכן הכל שהוא אכזר רק במידה שאב אכזר כלומר, מאוד. כדי להמית אהבה שבר מתיקות חומק הכל ובפה כבר העברית שפה משתרמתת תנועה לפיתויים של גלויות רחוקות סמיכה כמו דם נשיקותיה חטופות או מוות אבל היחידות לעוד קצת נצח לעוד קצת נצח
On vient d'entendre Nourita Vive, deux des intervenants de votre film, Rosie Pinas Delpuech, qui est donc traduit vers le français, et puis Shimon Adav qui chante un poème de sa composition. Et dans ce film, Traduire, il dit, Shimon Adav, quelque chose de très intéressant. Il dit qu'il s'est détaché de la religion assez rapidement, que ça l'étouffait, mais qu'il a eu un problème du coup avec l'hébreu, parce que pour lui, c'était la langue du sacré. Et que lui était un laïc et qu'il voulait écrire des poèmes laïcs. Et il dit, mais ça planait, cette langue sacrée planait sur mes mots comme l'Esprit Saint. Donc en fait, il y a même des traductions de l'hébreu vers l'hébreu. Hein.
Oui, 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 absolument. C'est ça, en fait, le deuxième film. En fait, il est déjà traduit, hein. Langue sacrée, langue parlée. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme il est devenu vraiment... Il voulait quitter tout ce qui est religieux et il a décidé d'écrire vraiment dans un hébreu complètement laïque. Mais il s'est rendu compte, et c'est ça qui est intéressant, que quand on les traduisait et les traducteurs ont pris au premier degré, c'est-à-dire sur une couche seulement, celle qui... Il a senti que toute la profondeur de sa poésie est partie. C'est-à-dire quand les traducteurs... a fait comme il a pensé, qu'en fait, derrière chaque mot, c'est ça, dans la langue d'aujourd'hui, il y a toute une couche de couches de couches d'autres hébreux, et pas seulement forcément la Bible, hein, c'est des couches de couches, et que justement, il s'est rendu compte quand les autres l'ont traduit.
D'ailleurs, c'est souvent le problème des traducteurs et certains résolvent ce problème-là en connaissant intimement l'écrivain. Et il y a, on parlait tout à l'heure d'Aaron Appelfeld, c'est exactement ce qui s'est passé avec sa traductrice française, c'est Valérie Zenati. Bonsoir Judith Soussan.
Bonsoir Catherine.
Vous êtes allée parler traduction avec Valérie Zenati.
Oui, tout à fait. Alors de Valérie Zenati, justement, Aaron Appelfeld a dit un jour qu'il avait trouvé sa voix en français. Quel plus beau compliment adressé à sa traductrice. Elle-même a en quelque sorte élu Appelfeld, puisqu'elle dit avoir ressenti une nécessité impérieuse de traduire cet auteur lorsqu'un de ses livres a croisé sa route un jour. Ce livre, il s'appelait « Histoire d'une vie ». Et il a effectivement été le début d'une relation singulière à tout point de vue entre Valérie Zenati et Aaron Appelfeld. Une relation dont on en vit d'emblée la douceur, la confiance, une sorte de chuchotement en fait entre eux. Et d'ailleurs, le prochain livre que publiera Valérie Zenati au printemps, en tant qu'auteur cette fois, portera justement sur cette rencontre. Mais ce n'est pas de cela que nous avons parlé. Nous avons parlé traduction, de son travail de traductrice. Alors je lui ai rendu visite, c'était un matin attristé par la pluie, mais Valérie Zenati n'en avait cure, car son regard était illuminé par la traduction qu'elle venait d'achever du dernier livre d'Appelfeld, Ha'ish Shelo Pasak Lishon, qui donne en français « Le garçon qui voulait dormir », l'histoire d'un jeune homme, Erwin, qui au sortir de la guerre n'a d'autre secours que le sommeil, pour retrouver le monde qu'il a perdu. Alors voilà, quelques moments de dans le bonheur d'un texte avec Valérie Zenati.
Le temps de la traduction est pour moi le temps de lecture idéal. C'est le bon rythme, c'est la bonne lenteur pour s'imprégner réellement de chaque mot. Ce que moi, je ne fais pas systématiquement lorsque je lis, parce que comme bon nombre de lecteurs, j'ai une forme d'impatience. Alors que dans la traduction, je suis tenue de m'arrêter sur chaque mot. Et ça, c'est prodigieux.
מאז תום המלחמה אני שרוי בתרדמה נמשכת. אני אמנם עובר מרכבת לרכבת, ממשאית למשאית, ולפרקים מעגלה לעגלה, אך הכל מתוך שינה שמיכה שאין בה חלומות. Depuis la fin de la guerre, j'étais plongée dans un sommeil continu. Je passais de train en train, de camion en camion, de carriole en carriole, mais toujours dans un sommeil épais, dénué de rêves.
On a l'impression que vous malaxez chaque mot.
Effectivement, on essaie de faire dire à notre langue maternelle quelque chose qu'elle ne dit pas spontanément, qui n'est pas sa musique, qui n'est pas sa texture, qui n'est pas sa tessiture. Et ce mouvement-là, oui, est très physique. C'est le sixième livre d'Aaron Appelfeld que je traduis. Donc, il est vrai que j'entre maintenant dans ces livres. Je ne dirais pas avec facilité, mais il y a une sorte de naturel. Je connais la musique de sa voix. Et c'est à partir de la musique de sa voix que je traduis. Pas à partir de ce que je sais de la grammaire hébraïque, des difficultés de syntaxe. Pas du tout. Je laisse tout ça de côté. J'essaie vraiment à l'oreille de restituer sa voix, tout simplement.
הסבל לא מעלה את האדם, ואסור לתחושתי לקבל את הסבל כדבר חיובי.
Alors, il y a un passage que je vais encore travailler, qui est très important à mon sens dans ce livre. C'est le moment où le jeune Erwin, donc vraiment le double d'Aaron Appelfeld, quitte l'Italie où il a été emmené dans un camp de réfugiés avec tant d'autres pour la Palestine de l'époque, la Palestine mandataire. Et ils sont tous sur le bateau et il y a une tempête. Et Aaron écrit comme toujours avec une économie de moyens absolument sidérante. Je sais qu'il y a quelque chose à trouver encore pour que, avec cette économie de moyens, la tempête soit aussi présente dans le texte français qu'elle l'est pour moi en hébreu. Ce que je dois traduire, ce ne sont pas des mots, mais un silence, une image, quelque chose qui est très impalpable, y compris dans le texte hébreu.
Urshani pokar le rega et einai, hanashim nirim li tvedim vechasrem aba.
Lorsque j'entrouvrais les yeux, j'apercevais des gens qui me semblaient lourds et inexpressifs. Je n'ai aucun souvenir de ce long voyage, et il n'y a rien d'étonnant à cela. J'avalais la nourriture distribuée, ou plutôt les restes que l'on me donnait. S'il n'y avait eu la soif pour me torturer tout au long de la route, je ne me serais sans doute jamais levée, pas même pour une tranche de pain. Je crois qu'il faut travailler sur les clairs-obscurs, sur les contrastes. Il faut travailler sur ce qui n'est pas dit à un moment donné, mais qui va être dit ensuite. Et je crois que c'est pour ça que, évidemment, la relecture est plus que nécessaire. Enfin, je ne sais pas, je dois faire une dizaine ou une douzaine de relectures minimum de chaque traduction. Ça, voilà, c'est là que les choses se passent, qu'on patine, qu'on travaille sur l'intensité, sur... J'aime cette période parce que c'est le moment où je jouis du texte en tant que lectrice. Et puis c'est très agréable de sentir que tout ça a émergé, voilà, qu'il y a quelque chose qui a émergé d'un texte a priori inaudible pour les lecteurs de ma langue et tout à coup, c'est là.
Est-ce que vous avez cette sensation qu'un livre vous tend la main ?
Ah oui, oui, oui. Je sais qu'il y a un avant et un après chaque livre. Je sais qu'il m'offre la possibilité de grandir, d'aller là où je ne peux pas aller toute seule, de m'approprier un univers que je ressens comme étant le mien, mais qui n'est pas le mien a priori, qui n'est pas ma vie. Et puis, il y a aussi la langue, un rapport à la langue qui moi, me touche et me fascine. Je crois que je suis de moins en moins capable de traduire de l'hébreu autre chose que Aaron Appelfeld, parce que les autres voix ne me sont pas aussi proches que la sienne et que je n'ai pas très envie de prendre d'autres voies. C'est celle-là qui m'offre un autre centre de gravité et c'est un travail fait de beaucoup d'affection, d'émotion et de nécessité aussi. Je crois que oui, qu'ils font plus que me tendre la main, on va dire qu'ils me tendent les bras.
Aval mi shera'a sevel veba'atzmo saval min adin שיהיה אדם לא רק מתחשב, אלא גם אדם מתעלה.
Alors voilà, le garçon qui voulait dormir d'Aaron Appelfeld et Mensonge de Valérie Zenati, donc qui porte sur sa relation avec Aaron Appelfeld, sont tous les deux à paraître aux éditions de l'Olivier au printemps 2011, je crois.
Merci beaucoup, Judith Soussan. Norita Vive, vous arrivez, donc on le disait au début, vous allez à partir de demain parler de ce dernier film au cinéma Les Trois Luxembourg. C'est la fin de cette aventure. Vers quoi est-ce que vous rêvez d'aller maintenant ?
Pour le moment, je m'occupe de ces bébés-là et avec plein d'accompagnements. C'est-à-dire qu'on a fait cette chose qu'au cinéma, pendant 2 mois, il y aura 3 fois par semaine des amis, des proches qui vont m'accompagner tout au long de cette aventure-là. Et après, on verra.
Oui, il faut dire qu'il va y avoir des rencontres vraiment passionnantes. Alors, on ne va pas les citer toutes, mais elles sont toutes sur le site de l'émission, pour ceux que ça intéresse. Il y aura mercredi 19 janvier, demain, c'est la première du film, il y aura un débat avec Hélène Cixous. Et ça, je pense que ça sera quelque chose à évidemment ne pas manquer. Merci infiniment, Norita Vive. En attendant le printemps avec impatience pour avoir ce coffret avec 5 de vos films, cette trilogie plus 2 autres et un livre aux éditions de Montparnasse. Donc ça sera une nouvelle rencontre avec vous en attendant d'autres films, d'autres aventures, d'autres recherches sur la pensée et les mots. Merci à vous.
Merci à vous.
Pour nous, c'est terminé, mais vous avez rendez-vous après les informations avec Marie-Pierre Planchon qui vous attend pour partir avec elle sur ses propres routes. Et nous nous retrouverons demain à la même heure, vers aux environs de 20h05. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.